réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Et oui, on enchaîne, voilà, deux semaines d'affilée réussite éducative. Avec un immense plaisir, je prends l'antenne comme ça dans une sorte de clair-obscur, comme dirait Victor Hugo, dans un oxymore permanent, car je suis à la fois motivé, David il se demande toujours comment je fais mes intros, qu'est-ce que je vais encore raconter, je suis à la fois motivé, comme à chaque fois qu'on prend l'antenne, parce qu'RCN, voilà, ça, c'est toujours extrêmement joyeux, et en même temps, comme avant de prendre l'antenne, on m'a vexé, voilà. Alors, je sais pas dans quel état je vais être pendant l'émission, chers auditeurs. Je vais avoir besoin de vous, de votre énergie positive. Parce que, voilà, il paraît que je peux plus bouger. Je pourrai bouger mon micro, je pourrai taper sur la table. Enfin, si vous voulez, j'ai été réprimandé. Et donc, c'est vraiment le cœur lourd, chers auditeurs, que je viens vers vous ce soir. Devant vous, sur scène. Et j'ai besoin de vous, chers auditeurs. Et oui, c'est la réussite éducative. Je sais pas si on va continuer la réussite éducative l'année prochaine, je sais pas. Hein. Ça dépend des réprimandes. Hein. Non, mais voilà, c'est fait plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Nous, on aime bien être là tous les mercredis à 17h, et puis toutes les rediffs, et puis tous les podcasts, et puis tout, partout. On est partout dans la radio. L'autre jour, encore, tu sais, David, encore hier, je t'ai pas présenté, mais tu auras la parole dans 30 secondes. Et bah, tu sais, bah, encore la nuit dernière. À minuit, je tombe sur scène et c'était la rediff de notre émission et je me suis dit c'est trop beau quand même. Voilà, on est sur les ondes la nuit. Les gens qui ont des insomnies se disent quoi ? Tiens, et si j'écoutais réussite éducative, si j'écoutais vie associative, c'est quand même c'est chouette quoi. Il y a plein d'infos, ça rigole. Regarde, si tu regardes la semaine dernière, je le dis aux auditeurs, c'est une manière de le dire, tu vois. T'as compris. Émission qu'ils peuvent retrouver demain à 16h, puisque les jeudis à 16h, vous avez l'émission de la semaine d'avant. Bon, on a quand même fait plein de blagues, on a eu également du rap. Non, quoi, du rap, oui, c'est ça, du rap. Hein,
on comme ça qu'on dit. Ça du rap.
Du rap, hein, c'est ça. Hein. On a parlé de jeux vidéo, on a cité du Hugo, du Albert Camus, du etc., etc. On avait une invitée qui a beaucoup parlé de plein de choses, mais que tu avais complètement oublié de présenter autour de table. Voilà. Moi, j'ai abandonné mon micro pour offrir des cafés à tout le monde. J'ai passé la moitié de l'émission à genoux. Enfin, je veux dire, c'était rock'n'roll et c'est ce que j'aime dans la radio.
Et on oui. a même parlé de Herman Hesse, je le redis. Et c'est oui. un auteur que je suis en train de découvrir et que je dévore. Vraiment, lisez Herman Hesse, c'est important.
Et, puisque je me suis fait disputer, chers auditeurs, je vais commencer cette émission de manière solennelle. David, tu as dit la semaine dernière quelque chose qui m'a beaucoup blessé. Alors, chers auditeurs, vous ne le savez pas, mais certains auditeurs le savent, parce que j'ai eu quelques messages lors d'un défi sportif que j'avais réalisé, d'ailleurs, grâce au Rotary Club, au Kiwanis, au Sœur Optimiste, et j'en passe. Le défi, c'était un petit peu terminé, presque vers la fin, on s'est arrêté devant la Chartreuse de Beauceville, et parce que... Avant de tomber dans les clowneries, eh bien, j'avais suivi pendant 3 ans une formation qui devait être mon métier, normalement, avant que je bifurque. Et tu ne sais pas, tu m'as fait pleurer. Car la semaine dernière, chers auditeurs, alors que j'étais destiné à devenir chauffeur poids lourd avant de changer mes plans, David a dit, alors qu'il ignorait tout ça, mais il y a des auditeurs qui le savent parce que du fait de ce défi sportif, ça avait été évoqué dans la presse. Eh bien, David, tu t'en es pris. Au chauffeur poids lourd, et tu as dit cette phrase qui m'a beaucoup fait pleurer. Tu as dit, si je pouvais appuyer sur un bouton pour enlever tous les camions, je le ferais.
Oui, mais voilà. En même temps, j'ai ramené la joie dans la journée d'un chauffeur poids lourd.
C'est vrai.
C'était aussi ça l'anecdote.
Bon, tu es pardonné.
Ah ben
tu es
voilà. pardonné. Voilà, c'est déjà mieux d'un coup.
Ça va,
il faut remettre les choses un petit peu.
Tu redeviens mon Charlie Gas que j'aime
avant de se réconcilier, il faut qu'on mette les choses au clair.
Ouais, c'est ça.
Là, je tenais à apporter ça.
On est un vieux couple, tu sais.
Allez. Dans la balance, parce que voilà. C'est non, important d'avoir des.
Super. Eh ben alors, blague à part, tout de suite, comme dans la transition, comme dans la tradition, juste une ou deux annonces, je ne vais pas développer. Simplement, n'hésitez pas, la semaine dernière, j'avais annoncé que je dirais en fin d'émission, et je ne l'ai pas dit. La cagnotte pour Nathan, vous savez, ce grand sportif nageur handisport. On l'avait reçu à la radio avec, il y avait sa maman qui était là, il y a Nicolas également qui l'accompagne dans ses défis. Ils ont mis en place une cagnotte. Je ne sais plus sur quoi elle est, c'est pas Eloasso, c'est pas Litchi, c'est un autre truc qui s'appelle Tribi, je crois. Tribi. Voilà, ouais. Je connaissais pas, c'est ça, Tribi. Plutôt que de vous dire tout le sigle que j'ai là, eh ben c'est tout simple. Vous allez sur le Facebook Chamallow Saltimbanque et vous avez le lien qui est mis pour la cagnotte pour soutenir Nathan et les défis sportifs, le championnat de France notamment. Vous savez qu'il est déjà multimédaillé et il a besoin de vous. Tout est expliqué sur la cagnotte Tribi, mais vous allez sur le Facebook Chamallow Saltimbanque et là, on a mis le lien et c'est expliqué, vous verrez. N'hésitez pas, chers auditeurs. C'est super important et n'hésitez pas le 17 juin, on le redira jamais assez, parce que c'est le spectacle de fin d'année de l'association, cette fois-ci je vais essayer de me rappeler, Les Petites Grandes Âmes, et la semaine dernière j'ai un peu galéré, à la MJC Borga, entrée libre, c'est beau, j'annonce déjà l'émission qui vient.
Oui, mais c'est faux.
Et c'est beau quand même. Entrée libre, avec un pot à la fin, et ça c'est important parce que ça permet également de parler de l'association Les Petites Grandes Âmes. Alors venez nombreux, MJC Borga, montée en scène 18h le lundi 17 juin. Ensuite, David, je vais te laisser faire un tour de table, mais promets-moi, David, de n'oublier personne cette fois-ci. Et je remercie Jean-Luc à la technique. Et je te laisse annoncer l'émission, les thèmes, etc. Et après, j'aurai juste un petit mot à dire, juste avant d'enclencher le premier thème de l'émission. Mais je vous en dirai plus après. Oui.
Oui, quoi, alors
bah, tu voulais pas...
Si, je voulais. C'est bien parce que la semaine dernière, tu as insinué que tu m'as dit, est-ce que tu veux?
Ah oui, c'est vrai, la semaine dernière, j'avais dit ça, ouais.
Et moi, je ne veux pas, tu vois, je propose.
Ah, c'est
parce qu'on est dans l'échange, ouais. Et nous c'est réconcilié en plus. Ouais. Du coup, on fait, voilà, tu vois.
C'est beau.
Bon, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, cette semaine, on va avoir la chronique de Claire un petit peu comme d'habitude, j'allais dire. Hein, ça devient très très habituel. Je te remercie d'ailleurs pour ça, parce que c'est une chouette année là qu'on a passée, puisqu'on arrive plus ou moins vers la fin de saison. Il reste encore des émissions, mais on arrive vers la fin. On va parler de quoi aujourd'hui?
Eh bien, de lecture.
Parfait.
Et j'en profite aussi pour vous remercier de m'accueillir.
Ah bah, remercions-nous, on est tous bien réconciliés.
On se remercie.
C'est super. Après l'ambiance effroyablement délétère de la semaine dernière, nous voici revenus sur de meilleurs sentiments. On va également, alors là, on reçoit Aymeric, qui est là, juste à côté de moi. Alors Aymeric, on se connaît depuis longtemps. Aymeric qui fait partie de la réussite éducative à Maxéville, et puis franchement je suis très heureux que tu sois là, parce que c'est un accomplissement, je trouve, et c'est très chouette. Et en plus tu viens nous parler de quelque chose qui n'est pas évident, c'est un sujet qu'on a déjà abordé ici plusieurs fois et qu'on continuera d'aborder malheureusement autant de fois qu'il le faudra. On va parler de harcèlement scolaire, et là je pense qu'on va avoir un vrai témoignage direct, et je pense que ça va être important, aussi bien pour toi que pour les gens qui vont l'écouter. Et puis voilà, puis on écoutera aussi de la musique, et puis on écoutera... Oui, alors j'allais l'oublier, à chaque fois je l'oublie. Déjà la semaine dernière, j'ai oublié, mais comme elle est là dans le paysage, c'est ce que je faisais la semaine dernière, on la pose, elle dit des trucs, et ben voilà.
Et pour m'apposer, je vais dire des
on
trucs.
On l'a posé,
voilà.
Elle va dire des trucs pour la première fois.
C'est vrai.
De manière totalement inédite.
Tout à fait.
C'est-à-dire que voilà, même à Hollywood, ils n'ont pas eu... Victoria qui fait une chronique.
C'est très vrai. Ça va être la grande première en tant que chroniqueuse pour cet instant.
Que tu vas avoir un vrai rôle, tu vas pas juste être posée.
Voilà, des fois, je suis la voix qui a des avis sur plein de choses.
Et du coup, je ne vais plus t'oublier.
Tu sais, c'est terrible parce que, en fait, j'ai dit la semaine dernière, hein, chers auditeurs, si vous suivez nos aventures radiophoniques, vous savez pourquoi. Quand je vois Victoria, je vois un nain du Hobbit. Elle sait pourquoi. Et maintenant, quand je la vois, je vais penser à un lapin. Parce que, en fait, Adèle, ma princesse, elle a un lapin, on le pose, il raconte une histoire. Alors, c'est ça. Comme il a dit, on te pose, tu parles. Bah, ça, non, je pense à ça. C'est rigolo. OK. Bah, viens à chaque émission. D'accord. Mais voyez, chers auditeurs, encore une fois, grâce à David, d'ailleurs, hein, c'est surtout le cas dans la réussite éducative. Il y a différentes thématiques, hein, plus ou moins, voilà, ou lourdes, ou sérieuses. Ou voilà, mais c'est ça qui fait aussi, je trouve, la beauté, l'harmonie de notre émission, je trouve.
Ça m'étonne que personne ne l'ait dit, mais du coup, est-ce qu'on pourrait pas dire que Victoria est un lapin nain?
Ah oui, du coup.
Oh, bah, j'accepte. Ouais, j'accepte.
Coup, non, mais oui, c'est vrai que.
Chouette.
Non, ouais, mais oui, c'est vrai.
Ouais, on va essayer de s'en rappeler.
Ouais, on va donc un lapin nain.
Après, le petit volubile,
j'ai repensé aux jours, les petits volubiles, j'aime bien aussi, ouais, en ce qui nous concerne. Ça nous va très bien, Chamelo et moi.
Trop mignons, les lapins nains, j'adore. Ah, mais c'est pour
d'accord.
ça que
bah, si vous voulez, on fera une émission sur les lapins nains, vous voulez bien? Ok.
Sur les animaux?
Ouais. Ah! Oh là là, la transition!
Le mois prochain, une émission qui va parler des animaux et des enfants et de la médiation animale et de ces choses-là. On recevra Samy et Audrey de la Compagnie des ânes, c'est des gens formidables.
Et tu pourrais être impressionné, Claire? Parce que quand tu as dit ça, est-ce que tu as remarqué que tout de suite je t'ai dit « Ouais, bravo pour la transition ». Est-ce que tu as remarqué que j'étais au courant? Ce qui te prouve quand même que tous les deux, on se fait quand même des briefings. On prépare. Le mot préparer, c'est un peu exagéré. Mais en tout cas, on en parle. C'est déjà pas mal.
À un moment, on est dans la même pièce, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est déjà bien.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà ça.
Alors, chers auditeurs, j'étais un peu... Mais comme je sais ce que tu vas annoncer en premier, c'est clair, hein, tu l'as dit. Et en même temps, tu l'as dit de manière très claire, d'ailleurs. Je te promets, Claire, juste un truc. La prochaine saison, 2024-2025, je ne ferai plus de jeu de mots sur Claire.
Okay,
je l'ai beaucoup fait cette année, on va arrêter. Okay. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Non, mais simplement, je repensais, après avoir fait ce petit briefing dont on vient de parler avec David ce matin, je me suis souvenu d'un livre où il y avait un petit garçon comme ça qui racontait son... Enfin, quand il l'a écrit, il était déjà très âgé, mais qui racontait que quand il était petit garçon, il a découvert la littérature, les livres, et à quel point c'était important pour lui. Ce livre, il s'appelle « Les mots ». Le monsieur, il s'appelle Jean-Paul Sartre, quand même, hein, excusez-moi du peu, et qui disait « La bibliothèque, c'était le monde pris dans un miroir, c'est dans les livres que j'ai découvert l'univers, etc. etc. » Quelques petites citations. Et il écrivait cette phrase que j'ai gravée au-dessus de mon lit, comme ça. C'était très rapide. Hein. « Quand un orage éclatait dans la montagne, quand Victor Hugo était inspiré, on pouvait atteindre au point sublime où le beau, le vrai, le bien se confondaient. J'avais trouvé ma religion, rien ne me parut plus important qu'un livre. » Voilà, c'est magnifique. Bon, après, j'aime aussi cette citation parce qu'il y a Victor Hugo dedans. Hein. Ouais. Bon, là, c'est pas choisi au hasard non plus. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser aussi à Jules Vallès, tu sais, l'enfant de Jules Vallès, dans lequel il raconte aussi son premier contact avec les livres et à quel point il se sentait immergé dans la littérature. Et ça m'a vraiment fait méditer parce que ma princesse qui a 8 ans a aussi les livres, etc. etc. Et je suis très intéressé par ta chronique parce que quel objet, parce que rien que l'objet, même avant même de l'ouvrir, quel objet est plus sacré, plus important, plus riche, mais même l'objet livre. Après, tu vas nous en dire bien plus sur une fois qu'on ouvre ces belles pages. Mais et on parlait la semaine dernière de l'importance du jeu, mais alors l'importance du livre dans la construction de l'enfant, et pas que. On est toujours des enfants face à cet objet livre. Je veux dire, que serait le monde, que serait la vie sans le livre? Pensez à ce poème de Victor Hugo qui s'appelle « À qui la faute ?» Ce beau poème. Tu as mis le feu, tu as incendié la bibliothèque. Vous vous rappelez de ce beau poème? Et ah, tu as fait ça, tu as incendié la bibliothèque, nanananananananan. Pourquoi tu as fait ça alors que là... Et à la fin, celui qui a incendié la bibliothèque, il dit juste, dernier vers, hein, c'est un très long poème dans lequel il dit, quoi, mais te rends compte tout ce qu'il y a dans la bibliothèque, tous ces livres, toute la richesse, l'histoire, toute... Prise de parole de l'incendiaire, dernier vers à la fin du poème, c'est, je ne sais pas lire. Très beau poème, à qui la faute? Bien sûr, on voit le polysémie du titre, parce que pour Victor Hugo, du coup, le fautif, c'est pas l'incendiaire. C'est peut-être parce qu'on ne lui a pas appris à lire. Hein, Victor Hugo qui s'est battu toute sa vie pour l'éducation. Importance de la lecture. À toi, Claire.
Mais tu crois que je vais faire ma chronique, là? Ça vaut le coup, tu crois?
Si, parce que toi, tu vas la ramener, l'importance du livre, à l'enfance, qui est ton cheval de bataille.
Oui.
Et tu vas justement nous dire à quel point cet objet, que moi je considère tellement sacré, au-dessus de tout, tu vas nous dire à quel point il est important dans la construction de l'enfant et dans son éveil.
Tu sais pas ce que je vais dire en fait.
Non mais moi je te connais. Moi je te connais. Je sais. Tu vas quand même pas nous dire toi Claire aujourd'hui toi que j'idolâtre. Donc j'idolâtre la chronique. Elle va pas venir nous dire non mais le livre c'est nul. Arrêtez de lire. Non.
Non non je crois pas.
Je crois pas.
J'ai pas changé d'avis.
Découvrons ça.
Une histoire à dormir debout. Il était une fois un bébé qui n'avait que 3 mois. Et pourtant, son papa, sa maman et tous les plus grands qui l'entouraient lisaient, racontaient beaucoup d'histoires. Tous ces moments de lecture partagés étaient très agréables et lui provoquaient de grands moments de joie. Le temps passait et il adorait faire une multitude d'expériences sensorielles avec ses livres. Découvrir une couverture, toucher différentes textures, admirer la féerie des couleurs, regarder des images toutes plus fascinantes les unes que les autres. Il lui arrivait même de développer sa motricité fine en tournant les pages, en manipulant des livres pop-up, en soulevant des rabats ou même en tirant non pas la chevillette mais la languette. Alors qu'il avait un peu grandi, était arrivé le temps de se trouver face à un imagier. Quelle joie pour cet enfant d'enrichir son vocabulaire, d'apprendre de nouveaux mots et d'être capable de les répéter. Il apprenait même à mettre des mots sur ses émotions pour mieux les comprendre. Régulièrement, lecture lui était faite. Ainsi, cela facilitait l'acquisition de son langage, accroissait sa capacité d'écoute et de concentration. C'était une activité bénéfique pour son éducation, son développement cognitif et son apprentissage de la langue. Elle lui permettait également de se familiariser avec le monde qui l'entourait, les formes, les chiffres, les couleurs et bien sûr les lettres. Jour après jour, il avait la chance de vivre des moments de rituel, instants privilégiés, rassurants, dans une bulle d'intimité, de calme qui réduisait son stress et l'aidait à entrer dans le sommeil. De plus en plus, les histoires le captivaient. Il comprenait qu'il y avait un ordre, un début, une fin, un rythme lié à la narration. On raconte même que mille et une nuits plus tard, alors qu'il rentrait à l'école, il s'apercevait que de nombreux récits se trouvaient à sa disposition. Pas toujours avec une princesse, mais des qui faisaient un peu peur parce que c'était rigolo, des histoires de petits frères comme celle de Gilles Andréae et Vanessa Cabane qui s'appelait « Une maison dans ma maman ». Et puis des drôles, des farfelus, des tristes aussi parfois, parce que ça parlait de disputes ou de la mort d'un animal de compagnie. Ainsi, tous ces ouvrages l'aidaient à vivre de nouvelles expériences. Mais un beau jour, alors qu'il se sentait assez prêt, il se disait qu'il aimerait avoir le plaisir de lire de manière autonome. Et comme il avait grandi avec des personnes qui lui décodaient ces étranges signes, il avait une approche décomplexée du livre qui faisait partie de son quotidien. Les grands lui disaient que la lecture était fondamentale, une compétence de base, le passage obligé pour accéder aux autres apprentissages et avancer dans son parcours scolaire. Il fournissait bigrement d'efforts pour y arriver, mais cela lui procurait énormément de joie. Et comme par enchantement, grâce à sa famille qui avait pris soin de vérifier s'il voyait et entendait bien, grâce à la transmission de ses professeurs, et surtout grâce à ses habiletés et sa ténacité, il avait réussi à trouver les clés pour accéder au trésor de la lecture. Et tous les petits héros de sa classe en avaient fait de même. C'était, malgré tout, un petit peu compliqué pour ses amis dyslexiques. En ce qui le concernait, il s'évadait, traversait les époques, parcourait le monde, faisait des voyages imaginaires et bien évidemment, il rencontrait des personnages. Il s'amusait à lire de nombreuses fois les mêmes histoires ou à inventer des fins différentes. Plongé dans ses albums, il ne voyait pas le temps passer, il oubliait ses petits tracas. À sa grande surprise, il connaissait des mots de plus en plus complexes, il augmentait ses connaissances et sa créativité. Quelque temps plus tard, il réalisait que la lecture lui permettait d'aller chercher de nouvelles informations, une autre façon de voir la vie. Il avait une pensée plus claire et il s'en trouvait donc mieux compris, entendu, reconnu, pour pouvoir prendre sa place de futur adulte et citoyen. Adolescent, il se rendait régulièrement à la médiathèque ou à la librairie. Il lisait des mangas, des bandes dessinées ou bien des romans. Mais malheureusement, en l'an 2024, le CNL, que l'on appelait aussi le Centre National du Livre, avait donné de bien tristes nouvelles. On apprenait alors par un sondage sur 1500 enfants âgés de 7 à 19 ans que quotidiennement, 19 minutes étaient consacrées à la lecture de livres chez les jeunes pour leurs loisirs. Parallèlement, ils destinaient chaque jour en moyenne 3h11 aux écrans et jusqu'à 5h10 chez les 16-19 ans. Et cela tous milieux confondus. Ils avaient même perdu 5 minutes par jour de temps de lecture par rapport à 2022. Heureusement, certains d'entre eux lisaient des livres sur tablette ou sur des liseuses. Adulte, notre valeureux lecteur avait perdu des êtres chers, mais il se souvenait et entendait encore leur voix lui narrer de jolis contes. Il vivait entouré des livres de Stendhal, Balzac, Victor Hugo, Platon et encore bien d'autres, dont celui du neuroscientifique Michel Desmurget, « Faites-les lire ». Il lisait et racontait de nombreux récits à ses propres enfants. Et l'on prétend encore aujourd'hui qu'il leur a transmis cette citation de Bernard Pivot. Le livre est surtout représenté par son auteur, son géniteur. C'est un peu comme un père et son enfant, ils se tiennent par la main.
Une famille lourde, l'amour y était le contraire du doute. La tête collée contre le poêle à mazout.
Rêveur.
Et j'ose même dire dans le coton, attendre comme dessine un mouton.
Mouton.
Je l'ai été jusque dans la tonsure, mais les brochures font pas dans la littérature. Et la main de ma mère était là en cas de doute, comme un parapluie qui te protège des gouttes.
De plus.
Et j'ose même dire du mauvais temps, on n'avait rien, on était content. Avant. Dégage et qu'on ne me parle plus au présent. Avant, qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant.
même agréable. J'écrivais les deux coudes posés sur la table. J'ôtais de ma bouche les insanités, comme un petit prince de l'humanité. Je cédais ma place aux personnes âgées, pour un sourire, une poignée de dragées. J'enlevais ma casquette en entrant à l'école, mais être poli ça dispense pas d'école. Gentil et tout à la fois dernier de la classe, éveillé comme pouvait l'être une limace.
Je dormais,
j'osais même le dire si profond, et que s'écroule le plafond. Avant qu'on me disait dégage et qu'on ne me parle plus au présent. Avant qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant. J'attendais petit prince des gloutons, qu'on me porte à la bouche des paquets de bonbons. Y'avait pas la monnaie, mais c'était tout comme, car le baiser remplaçait l'économe. Et malgré les corvées de charbon, ma récompense était un bisou à l'horizon. Et dépassé le siècle où on te met au couvent, j'étais si nul, ma mère a pris les devants. Se pointait à l'école, un chiffon dans la chevelure. La maîtresse disait,
regarde ses ratures.
Le cœur en miettes, elle faisait parler l'eau et le sel, et sans retourner à sa vaisselle. Avant qu'on me disait dégage et qu'on ne me parle plus au présent. Avant qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant. Avant. Avant. À 18h se pointait le maçon, un seul regard et à l'heure des cuissons il disait,
vous voulez qu'on nous coupe les bourses?
À ces mots une larme descend de la grande ours. Et j'ai compris qu'il n'y avait qu'une façon d'apprendre l'art de la multiplication. Depuis j'ai plus voulu ressembler aux statues, et j'ai laissé mes potes à la salle du muscu. Ma mère m'a jeté un bouquin sur la table,
un gros machin qui rentrait pas dans mon cartable.
C'est tous ces mots qui ont allumé la lumière, les spéciales dédicaces au petit Robert. Avant qu'on me disait dégage et qu'on ne me parle plus au présent. Avant qu'on déchire mes pages et qu'on me dise passer au suivant. Avant. Avant. Avant.
Petit. Rêveur. Mouton. Gentil.
Et c'était Zebda qui nous chantait le petit Robert, un bon vieux Zebda.
Réussite éducative sur RCN.
Alors, chers auditeurs, je vais rebondir sur la chronique de Claire et non pas sur Zelda, dont j'ignore totalement tout. Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ?
Zebda.
Zebda.
Zebda, le groupe des années 80, ah, 2000. Pas...
Zebda. Comment ? Zebda ?
Zebda, oui.
Ça n'a rien à voir avec Zelda ?
Ça remonte il y a quand même plus de 20 ans. Il y a 20 ans, une vingtaine d'années.
Ah, c'est trop récent pour moi, ça.
Oh là là.
C'est pas Adamo.
Ils ont voulu me faire... Ouais, c'est
postérieur
ça.
À Adamo.
Oui, mais rigolez pas. Je vous ai dit, la semaine dernière, je vous l'ai dit. Bon, c'est pas de ma faute si vous n'êtes pas sorti du studio depuis une semaine, mais il va mieux. Il va mieux. Il l'a dit hier à la radio. Et il va mieux. Et il reprend les concerts. Et il prépare son nouvel album pour octobre. Je vous donnerai très bientôt, chers auditeurs, des nouvelles d'Adamo. Nous avons décidé de ne plus jamais parler de Christophe Maé. Désolé, Claire. Non, mais ils ont voulu me faire taire.
Après, désolé, Maëva, quand même.
Et Maëva.
Je suis désolé, je le casse là. Mais, bonjour, Maëva.
Oh, Maëva.
On sait que tu nous écoutes.
Elle reviendra.
Maëva, tu n'es pas là avec moi pour défendre notre Christophe.
Tu devras revenir, Maëva.
Ah, il faut qu'elle revienne, hein. On l'embrasse, bien sûr.
Voilà, maintenant que je t'ai bien coupé la parole, je te la redonne.
Non, mais par contre, c'est vrai. Mais Victoria a quand même noté que tu as repensé plus vite à Maëva que à elle lors du tour de table alors qu'elle est présente, quoi. Mais moi, je ne dis rien, je ne dis rien.
Je le prends très à cœur et je suis maintenant vexée et aussi en conflit avec toi, apparemment.
Allez, ça y est, c'est cool.
On a voulu
le mois prochain pour se réconcilier encore. C'est fatigant.
Mais c'est beau parce que c'est comme dans les couples, il paraît que c'est le plus beau, c'est toutes les réconciliations. Donc, voilà. Des fois, il y en a qui font des disputes exprès pour avoir ce moment intense de réconciliation. Donc,
c'est une drôle de démarche.
Ah, bon resto, ça marche bien aussi.
Oui, je disais, on a voulu me faire taire après ta chronique, Claire, mais comme disait Victor Hugo, quand on bâillonne la parole, elle se change en lumière et on ne bâillonne pas la lumière. Donc, je vais reprendre la parole quand même après ta chronique parce que c'est magnifique ta chronique. J'avais raison de mettre la pression en l'annonçant tellement parce que c'est super chouette ce que tu dis. Et j'aime bien l'idée. Quand tu as dit de raconter, parce que le livre, c'est ça aussi pour les enfants, c'est souvent la transmission, raconter. Je parlais de Sartre dans les mots, et quand il est tout petit, qu'il ne savait pas lire, et qu'il raconte ce moment-là, il dit justement, sa maman prenait un livre, et elle lui dit, tu veux les fées ce soir? Et il écrit, qu'il dit, il a dit à sa mère, ah, il y a les fées là-dedans. Et j'aime bien ce là-dedans, parce qu'il y a un côté magique. Il disait, sa mère, elle ouvrait, et tout d'un coup, c'est pour lui, c'était plus sa mère, et il regardait ses lèvres qui bougent, et c'est pour lui, c'était magique qu'il y ait une telle histoire, une aventure, quelque chose qui lui plaît tellement, et qui sortait de cet objet-là, qui pour lui ne voulait rien dire, cet objet, puisqu'il ne savait pas lire, donc c'est que des espèces de taches sur les feuilles. Et à travers cet objet que sa mère fixait, un peu comme la lectrice soumise, c'est un tableau de Magritte, elle fixait cet objet, et il y a tout un univers, une histoire qui sortait de ce livre, comme ça, comme par magie, quoi, à travers la voix de sa mère. Et je pense que c'est super important que les parents, les nounous, etc., mais racontent, parce que même si l'enfant ne sait pas lire, c'est quand même la magie du livre qui sort comme ça, de cet objet complètement mystérieux, pour le coup. Et donc, je pense que c'est super important, et aussi quand on, de leur apprendre à lire à haute voix, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans les lectures à haute voix. Non, qu'est-ce que tu en penses, Claire ?
Ah oui, mais c'est très important. Et aussi raconter et re-raconter. Ouais, alors, les enfants adorent qu'on leur raconte des dizaines de fois le même livre pour qu'eux puissent le raconter à nouveau à leur façon, avec leurs mots. Et puis, parfois, changer un mot ou deux pour en donner une définition, donner des mots différents. Je trouve que c'est super important pour l'enfant. Et puis, justement, ça l'habitue à être avec le livre et que ça ne soit pas quelque chose qui soit exceptionnel. Il faut que ça fasse partie de son quotidien.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Parce justement, si on ne leur a pas lu d'histoire, s'ils n'ont pas touché de livre, après, c'est quelque chose de trop sacré pour eux. Ils ne vont pas oser y toucher. Ça va être quelque chose qui sera trop éloigné de leur monde. Il faut des livres partout.
Partout ?
Oui.
Des arbres à livres partout ?
Oui, des arbres, oui.
Et je me
demandais si je n'allais pas en mettre un dans mon jardin, moi, devant.
Ah ouais, c'est beau, ça.
Oui, je voulais en mettre un.
Ouais.
Comme si on accès chouette. Devant, je me demandais.
Et je pense par rapport au travail que je fais, il faut aussi pouvoir accompagner, filer un coup de main à tous les gens qui sont empêchés de faire et de pouvoir apporter ça aux enfants. Parce qu'il peut y avoir plein de raisons et plein de situations et plein de contextes qui font qu'on ne peut pas, ou que c'est très difficile et que c'est peut-être le truc en trop qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a déjà plein d'autres choses compliquées à gérer. Mmh. Et je dis aussi ça parce que c'est pas toujours une simple question de vouloir le faire. Il y a aussi ça. Et donc, je trouve que c'est important que tous les professionnels, que ce soit du livre, du travail social, de quoi que ce soit, mais qui sont amenés à travailler avec un public et avec des familles en particulier, filent le coup de main nécessaire pour que ça puisse avoir lieu. Voilà.
Mais tu sais qu'il y avait un arbre à livres qui avait été installé dans le quartier qui est le centre du monde, hein, j'ai calculé, moi, près des grands toboggans, là.
Je croyais que c'était la gare de Perpignan, moi. C'est pas ça, le centre du monde,
normalement ? La gare de Perpignan, le centre
c'était
du
pas
monde.
Ça ?
Ah ouais,
non, c'est le champ de bœuf. Salvatore Dalí, normalement.
Ah non, oui, d'accord, mais je sais, mais il a pas les rêves, lui. Dès que c'est
pas le coup de garde de Perpignan.
Dès que ça parle pas de camion.
Je suis d'accord avec Chamalo que c'est le champ de bœuf.
Voilà,
le centre du monde.
Tu te souviens, c'est un arbre à livres qui était tout près de Claude Lorrain, là, tu sais.
De quoi
Il y avait un arbre à livres qui avait été mis juste derrière le grand immeuble, près de Claude Lorrain. Non, comment il s'appelle n'importe quoi, Jules Romain. Excuse-moi, j'ai fait un lapsus. Il y en avait un, puis j'avais cru comprendre qu'il avait été un petit peu... Enfin, qu'il n'y avait plus.
Oui, il avait été dégradé, en fait.
Voilà, c'est ça, je n'osais pas le dire. Mais alors...
C'est des choses qui arrivent.
C'est des choses qui arrivent. Mais par contre, petit bémol, j'ai remarqué, parce que je côtoie plusieurs arbres à livres. On dirait un écureuil, tu sais. Je côtoie plusieurs arbres à livres. Mais il n'y a pas toujours, ou alors très peu... Non, ah non, oui, ça c'est vrai, mais ça on en met, ça il faut en mettre partout. Mais il n'y a pas toujours assez, je trouve, de livres pour enfants.
Ah oui.
J'ai remarqué, et même quand c'est des arbres à livres qui sont proches d'aires de jeu. Je pense à la place Croix de Bourgogne, je pense au parc Sainte-Marie, etc. J'avais dit plein, j'en ai cité que deux, pardon. Mais il y en a des fois un ou deux livres pour enfants, mais très peu. Donc n'hésitez pas, je dis aux auditeurs, voilà, si vous vous approchez d'arbres à livres, allez déposer comme ça des livres pour enfants. Oui.
Il faut savoir que souvent dans les médiathèques, il y a l'heure du conte.
C'est vrai.
Il y a l'heure du conte en langue des signes aussi. Alors je ne sais pas si ça existe encore, mais à la médiathèque de Nancy, par un moment, il y avait Jean-Louis Hervé qui traduisait les contes en langue des signes. Et alors je crois que c'est au mois de juin, mais il y a les médiathèques aussi qui revendent, qui recettent pour quasi rien du tout les livres pour que ça tourne et que ça fasse des fonds pour des nouveaux livres. Et c'est l'occasion de pouvoir acheter des livres à moindre coût.
Et il y a une heure du compte aussi à la médiathèque de Maxéville.
Bien sûr.
Médiathèque des brasseries.
Les lundis matins.
Voilà, j'en parle.
Oui, une fois par mois.
Ouais, c'est bien. J'apprends des trucs, moi. Ça vaut le coup de passer à la radio.
Et aussi à la médiathèque du Haut du Lièvre.
Oui.
C'était cet après-midi, je crois, il y en avait un. Enfin, oui. C'est vrai que ça vaut le coup de, d'aller pousser ces portes-là, parce que y a pas que, c'est pas que des rayons avec des livres, en fait. Il s'y passe des choses. Il y a des gens qui font des choses, c'est vivant.
Mais moi, ça m'a inspiré une petite anecdote, en fait, cette chronique. Une anecdote personnelle dans le sens de moi. C'est qu'en fait, quand j'étais petite, alors c'est dû raconter, hein, ça m'a été rapporté parce que j'étais trop petite pour m'en souvenir. En fait, on avait trouvé, je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur quand j'étais petite. En fait, on a réussi à concilier les deux. C'est quelque chose qui se faisait au début des années 2000. En fait, c'était quand on achetait le livre pour enfants, on avait dedans un CD.
Ah oui.
Qui se mettait sur l'ordinateur et qui était interactif comme un jeu, en fait, finalement, avec beaucoup de choses à cliquer, avec lesquelles interagir. Et il s'avère que j'avais mes grands préférés dans ces livres-là. Et un jour, en fait, j'étais toute seule dans la chambre en train de faire mes jeux d'enfant. Et mes parents arrivent dans la chambre parce qu'ils m'entendent parler. Et j'étais en train de feuilleter le livre et à haute voix de lire le livre, de réciter le livre. Sauf que j'étais à un âge où absolument pas, j'avais pas du tout encore appris à lire. Et du coup, forcément, beaucoup de questions ont été, leur sont venues à l'esprit. Et en fait, c'est simplement par mimétisme, à force d'entendre la voix dans le CD, à force de me rappeler des passages où j'ai cliqué sur des choses, ça m'a fait travailler ma compréhension orale et aussi ma compréhension d'histoire d'une trame, quoi. Et à partir de là, en fait, je me suis trouvé un amour pour le fait de me raconter mes histoires. Et c'est du coup, j'ai passé une bonne partie de mon enfance à me relire mes livres, comme si je les lisais.
Ça développe énormément l'imagination, hein, tous les livres. Parce qu'en plus, quand on lit un livre, chacun y met ses images, en fait, même sur un même personnage, sur la même description. Parfois, même quand c'est refait, hein, quand il y a des réalisateurs qui refont les scénarios et tout, on se dit « Ah, mais moi, le personnage-là, je ne le voyais pas du tout comme ça. » Alors qu'en fait, on part d'une même description, d'un même livre. En fait, chacun a son propre imaginaire et traduit le livre comme il l'entend.
Et puis là, du coup, j'étais la propre narratrice de mon histoire. Ouais, donc coup, malgré le fait que je l'avais vu, que j'avais les images sous les yeux, bah, d'un coup, c'était mon histoire, parce que c'était moi qui me le racontais. Donc j'y mettais l'intonation que je voulais, je mettais l'emphase sur les passages qui, moi, me parlaient. Et du coup, c'était vraiment, c'est des souvenirs de lecture que je trouve magnifiques et en plus très ludiques dans plein de sens, quoi. Parce que j'ai ajouté plein de petites choses dans ma tête.
Pardon.
Oui, non, bah je pense aussi au quand j'étais ado, c'était les livres dont vous êtes le héros. Pour revenir sur le jeu et le livre, donc où du coup effectivement les paragraphes s'enchaînent avec des numéros et selon les choix qu'on fait, on va à tel numéro, numéro, on suit pas les pages en fait, on va au numéro de paragraphe. Et ces jeux-là, oui, le lapsus est très révélateur. Je les ai dévorés et c'était génial parce qu'on était on jouait vraiment un personnage en lisant en même temps. Et en plus, il y avait des illustrateurs qui étaient pas mal, qui faisaient des chouettes illustrations. Ian Livingstone, je crois, si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est auteur ou illustrateur, mais il me semble que c'était un des illustrateurs. Et c'est des mondes imaginaires, en plus, moi, enfin, encore aujourd'hui, que je connais bien, enfin, que j'ai en tête, quoi. Et puis, il y a des personnages qui ont été importants pour moi, et que j'ai rencontrés. En fait, alors, on les rencontre dans les lectures classiques, hein, déjà, il y a ça aussi, mais là, c'était renforcé le fait qu'on joue vraiment et qu'il faut gérer des fois des combats, des machins, des épreuves avec des compétences. C'était très simple, hein, c'était facile, il fallait jeter un dé, c'était des choses faciles, mais j'ai vraiment rencontré des gens, entre guillemets, qui sont toujours là dans ma mémoire, comme si c'était des vrais gens que j'avais croisés. C'est ultra puissant. Et finalement, on parlait des jeux vidéo, mais moi, je vais citer deux, trois noms pour situer, mais comme Morrowind, par exemple, qui est un jeu du début des années 2000, c'est des jeux qui m'ont marqué aussi là-dessus. Et quelque part, j'aime bien faire ce parallèle aussi pour nuancer un petit peu les choses, mais des jeux qui sont des jeux très écrits, avec des scénarios extrêmement écrits, avec des mondes très riches, bah finalement, de la même manière, on a des histoires assez incroyables, un imaginaire qui se développe, et on rencontre des gens, entre guillemets. Et ça va jusqu'à, Tess Black avait fait une chronique là-dessus, ça rejoint pour moi un peu le principe des fanfictions, c'est-à-dire le fait de prolonger une œuvre de manière amatrice, entre guillemets, en disant, bah, je choisis tel personnage et je vais écrire son histoire parce qu'elle n'est pas dans l'œuvre d'origine, et j'en fais ce que je veux finalement. Et ça devient vraiment des compagnons de route, un peu, je sais pas comment dire, ça c'est. Je pense que c'est vrai même pour des films, tout ce qui va être du domaine de la création et de l'imaginaire. Alors les livres sont évidemment fondamentaux là-dessus, puis c'est peut-être eux qui l'ont fait les premiers. Et encore, il y a toute la tradition orale aussi derrière, enfin bon bref, le sujet est vaste.
Ouais.
Oh, bah, ça t'a abattu, dis donc.
Ouais, non mais parce que je suis en train... Non mais parce que, je vais vous dire pourquoi.
On a cette magnifique chronique sur l'importance du livre. Alors j'ai bien aimé ton histoire de désacraliser parce que tu as raison. Moi je parlais de sacré parce que pour nous il est sacré, hein, nous en tant voilà adultes, etc. Mais c'est vrai que c'est il faut être à la fois dans cette harmonie entre le caractère sacré du livre et parce qu'il est sacré, on va le désacraliser, c'est-à-dire le pour que l'enfant voilà sente que c'est pour lui, il se l'approprie. Hein, bien sûr, c'est pas une antithèse, mais souvent c'est comme ça, c'est la complexité hein, du monde et c'est à la fois sacré et à désacraliser. Ça me fait penser à l'invention du livre de poche qui a permis justement et ça c'est vraiment une magnifique hein, parce qu'avant l'invention du livre de poche Dieu sait que c'était réservé élitiste etc etc et ça a amené la culture non mais c'est là aussi je me suis arrêté parce que on va d'ailleurs je vais tout de suite me couper moi-même à cause du temps qui passe voilà. C'est le livre toi ouais. On fera une émission sur le livre mais alors parce que il y a quand même l'importance du livre aussi après pour les adultes sur le fait que le livre est vecteur de la pensée et du coup va nous aider à complexifier notre pensée. Je pensais en t'écoutant à Camus, à relire Voltaire, etc., etc. Or, souvent aujourd'hui, déjà tu as raison, on a réduit le temps de lecture, mais là c'est en tant qu'objet, en tant que nécessité de lire, comme toi tu l'as dit. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est qu'en réduisant ce temps de lecture, en plus, s'ajoute à cela, j'ai l'impression, mais là, c'est peut-être je fais mon vieux schnock exprès, on y répondra dans une autre émission. On a aussi réduit le livre à autre chose, c'est quand j'entends des publicités pour des livres à la radio, ce dont on parle, comme ça, le petit moment de publicité, c'est simplement l'histoire. Je pense à plein d'auteurs actuels qui vendent des millions de livres, qui sont, paraît-il, les plus vendus, machin. Je dirais pas de nom, parce que ça se trouve, tu les adores comme t'aimes Christophe Maé, mais et ils disent, voilà, il était là sur un banc dans un parc, elle est venue, l'a retrouvée, machin. Et en fait, ce n'est que l'histoire qui semble intéressant, comme au cinéma. Or, on a oublié que les grands auteurs, les Hugo, t'as parlé de Stendhal, les Camus, c'est pas que l'histoire, c'était la manière de la raconter, oui. Donc le style, un peu comme aujourd'hui, que si on comparait une musique actuelle à Mozart, par exemple, bon, bah, ça me fait un peu peur quand même. Il y avait le génie de l'écriture, donc là, on rencontrait aussi un style et pas qu'une histoire, un tel et un tel rencontre un tel, regardez comme c'est magnifique, comme les pubs qu'on entend à la radio pour un livre. Mais il y avait aussi une pensée. C'est-à-dire que La Peste d'Albert Camus, par exemple, c'est une histoire, La Peste à Oran, tout ça dans les années 40, mais pas que, parce qu'il y a plein de digressions de Camus qui font qu'une fois qu'on a fini le livre, on n'est pas le même homme qu'avant qu'on commence. Je pense à La Chute de Camus, quand j'ai fini La Chute de Camus, j'étais pas le même homme qu'avant de le lire. Et ce que je veux dire par là, c'est que si on oublie le livre, on perd, je pense, la pensée philosophique de certains auteurs. Si on lit plus Voltaire, si on lit plus Camus, finalement, l'humanité qu'on prépare, eh bien, c'est peut-être pas la même, quoi. Et notre nécessité de continuer de lire, c'est d'aller à la rencontre de pensées de gens qui nous ont précédés, de pensées qui nous construisent, nous, inconsciemment, et qui complexifie notre pensée et qui peut-être vont nous aider à vivre les uns avec les autres en harmonie. Et Dieu sait que quand on écoute les médias le matin, peut-être qu'on a encore besoin d'aller à la rencontre de ça. Non, qu'est-ce que tu en penses? Et après, on donne la parole à la gauche.
Alors, à la fois, je suis d'accord, parce que c'est vrai que lire tous ces grands auteurs, ça apporte plein de choses, et notamment, t'en parles, ça complexifie la pensée. Mais à la fois, c'est mon avis, je pense que tous les auteurs contemporains, alors il y en a des plus ou moins talentueux, mais même sur les aventures romanesques, si ça peut amener quelqu'un à lire autre chose, si ça l'amène au livre pour aller lire après Victor Hugo ou Stendhal, ok.
Oui, je suis d'accord. C'est bien.
Je propose qu'on fasse une transition en fait par rapport au témoignage d'Emeric qu'on évoquait donc en début d'émission parce que tu as parlé de la capacité peut-être de certains livres à faire en sorte qu'on arrive à vivre en harmonie les uns avec les autres. Sauf qu'on n'en est pas toujours là à l'heure actuelle et c'est vrai qu'on avait parlé effectivement de toi, ton témoignage autour de la question du harcèlement scolaire. Si on veut faire une énorme caricature, on pourrait dire que ça serait plus intéressant de passer du temps à lire dans les cours de récré que de s'en prendre aux autres. Bon, c'est un peu n'importe quoi ce que je dis là, mais c'est aussi pour amener ça en fait, l'idée que peut-être que les livres peuvent aider aussi à résoudre certains conflits. Toi, les conflits que tu as vécu, enfin c'est pas des conflits finalement, c'est vraiment des situations de harcèlement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu peux évoquer ça? Je sais que tu l'as un petit peu préparé. Donc, je te laisse la parole et en avant. Eh bien, écoute, c'est à toi, Emeric.
Comment je peux vous expliquer? Je me suis fait harceler à l'école primaire. J'avais 9 ans. Et je me suis fait menacer de mort par un ancien ami à moi. Quoi, je peux... ça m'énerve.
Ouais, c'est pas évident. Hein. Ouais. C'est pas
mais
évident.
C'est courageux de parler comme tu le fais.
Ouais, énormément.
Moi, je t'admire hein, de pouvoir faire ça.
Qu'est-ce que toi, tu voudrais dire ou tu souhaiterais dire, peut-être, pas forcément à cette personne-là précisément, mais à des personnes qui vont faire ça.
Ah, qu'ils le fassent pas.
Et à ton avis, est-ce que toi, t'as eu, avec ton expérience, est-ce que t'as pu te réfléchir à comment faire en sorte que ça n'arrive pas? Pourquoi ça arrive, en fait?
Je sais même pas. Je sais pas comment t'expliquer, David.
Tu t'es senti comment?
Mal.
Mal jusqu'à quel point?
Jusqu'à me suicider.
D'accord, on est d'accord. C'était je savais que tu allais que tu allais là-dessus et que enfin voilà, c'est important de dire ça en fait, très simplement en une phrase parce que c'est de ça qu'on parle. Et c'est ça les conséquences possibles des situations de harcèlement. Techniquement, le terme est pas bon mais qu'est-ce qui se passait concrètement?
On me frappait jusqu'au sang. Et ils m'ont aussi menacé de me tuer avec des armes, me couper la tête, tuer toute ma famille. Là, j'aimerais faire un truc, mais je le ferai pas parce que je sais que je peux aller en prison. Mais le truc que je voulais faire, c'est aller tabasser sa bouche pour ce qu'il ressent, pour ce qu'il ressent que j'ai vécu, ce que j'ai vécu.
C'était il y a quelques années. En tout cas, ouais, enfin, déjà quand même quelques années dans ce que tu me disais.
Bah, j'avais 9 ans. Mmh. Or, j'ai 17, je vais avoir 18.
Mmh. Et est-ce que toi, tu penses que t'en es sorti de ça ou qu'au contraire, justement, on l'entend dans ta voix et dans ta façon de le dire, ça a toujours des conséquences aujourd'hui?
Ça a toujours des conséquences.
Comme quelles conséquences?
La peur.
La peur de...
De subir ce que j'ai vécu.
De revivre ça. Est-ce qu'il y a d'autres... D'autres conséquences, en fait, de tout ça.
La colère.
C'est une conséquence qui est... on l'a entendu juste avant quand tu as dit justement de ce que tu voudrais faire, mais que tu ne feras pas. Cette colère-là, elle est mauvaise pour toi?
Oui. Car je m'en prends à ma famille. Et je suis devenu très violent à cause de ça.
C'est intéressant, oui, c'est intéressant. Et comme on l'a dit juste avant, c'est super courageux d'en parler, d'en parler parce qu'on entend que t'es toujours que ça te prend aux tripes, hein, voilà. Et c'est intéressant parce qu'on voit comment justement un acte, l'acte d'une personne ou de plusieurs personnes qui à l'époque, qui a quand même été très loin, je trouve, dans ce que tu décris. En fait, ça a des conséquences qui vont très loin dans le temps. Puis qui vont très loin aussi autour de toi, c'est-à-dire que ça, à un moment, ça se met à concerner des gens qui sont pas impliqués en premier lieu, même si de fait c'est la famille, donc s'ils sont quand même une implication. Toi aujourd'hui, comment tu te reconstruis, avec quoi tu te reconstruis après avoir vécu ça? Qu'est-ce qui te fait du bien?
Bah...
Ou grâce à quoi? J'entends que tu commences ta phrase en disant grâce.
Bah, grâce à l'école de la deuxième chance, déjà. Ouais. Bah, grâce à toi, David. Grâce à l'émission locale. Bah, aussi grâce à l'AFPA et tout.
C'est des choses que tu... Enfin, des choses dans lesquelles tu es depuis pas si longtemps que ça, si je dis pas de bêtises.
L'AFPA, ça fait depuis bien longtemps.
Ouais. Ça fait quoi? Ça fait un an, je dirais. Parce qu'on se connaît bien quand même, donc je me permets de...
Oui, ça va faire bientôt. Hein.
Et pourquoi justement tous ces organismes, toutes ces personnes, le fait, en quoi ça te fait du bien?
Bah, j'ai l'impression qu'on me couvre de la personne qui m'a harcelé.
Et moi, ce à quoi j'essaie de t'amener dans cet échange-là, c'est toi personnellement, tu vois, parce que là tu me parles des autres qui vont te couvrir, qui vont peut-être te protéger. Est-ce que ça te met du coup dans une... façon de te voir différente ou dans une dynamique différente de celle d'avant?
Oui.
Si tu peux en dire un peu plus. Compliqué?
Oui.
Compliqué. C'est des situations qui sont vraiment difficiles. Est-ce que comment ça a été géré en fait à l'époque ce cette situation-là. Comment, enfin, est-ce que quelqu'un a été alerté? Est-ce que comment ça s'est passé?
Elle avait la directrice de mon école qui était alertée.
Ouais. Et ça a fait quelque chose? Ça s'est arrêté? Ça a continué?
Ça a continué.
D'accord.
Jusqu'à que la police vienne dans l'école pour intervenir.
Donc ça mobilise quand même du monde, ces histoires-là. Après, c'est vrai que toi, ce que tu décris, c'est des menaces qui sont vraiment terribles. Enfin, je trouve que les termes utilisés sont...
Et surtout pour un âge aussi jeune.
Ah ouais, c'est
ça. Et quelles ont été les conséquences pour les personnes qui t'ont fait ça?
Rien.
Rien du tout.
Bah, je sais pas comment... Ils ont rien vécu.
À moitié.
La moitié. Alors on accueille aussi, parce que du coup on a entendu votre voix, la maman d'Emeric, qui ne souhaitait pas forcément s'exprimer au départ, mais qui est quand même à la table avec nous, c'est pour ça que je ne l'avais pas forcément présenté au début. Mais voilà, bon, je le dis puisque...
Il y a eu quand même des conséquences sur la maman de l'enfant.
D'accord. Conséquences, oui.
Bah, menace de retirer les détails, autres enfants.
D'accord. Oui, donc voilà, il y a eu un aspect judiciaire familial, quand même aux choses. Ok. On parle souvent de la façon dont c'est pris en compte ou pas pris en compte, justement. Voilà. Mais moi, j'ai le sentiment souvent que même quand c'est pris en compte, entre guillemets, le mal est déjà fait. Donc, on peut avoir des formes de réparation, entre guillemets, mais le mal est fait. Et la conséquence sur toi et sur toutes les années que tu as vécues, là, et sur le fait que ça reste compliqué de se reconstruire avec ça, même si là, je trouve que tu es dans quelque chose de chouette. Enfin, le simple fait que tu sois là aujourd'hui pour en parler, c'est déjà énorme, je trouve. Mais on voit que même avec la réparation judiciaire derrière, même quand la justice passe, finalement, les dégâts sont quand même là. Il y a un côté, alors je dirais pas irréversible du tout, parce qu'en fait, on peut arriver à en faire quelque chose. Je crois que c'est ce que un peu tout le monde t'a dit, justement, des personnes que t'as citées. Mais le mieux, ça serait que ça soit pas arrivé, évidemment.
Oui.
On est d'accord.
Et je crois que il y a... Alors, c'est peut-être un peu bisounours de penser... de penser ça. Enfin, je sais pas si ça fonctionne ou pas, mais... Dans les pays du Nord, il y a des cours d'empathie. Et maintenant, il y a aussi des débats philosophiques pour les enfants. Et peut-être que tout ça, ça peut aider à ce que ça ne se mette pas en place. Parce qu'en fait, comme tu le disais, David, en fait, ce qui est important, c'est que ça n'arrive pas. Il ne faudrait pas que ça arrive. Alors, réparer, c'est une chose, mais en fait, il ne faudrait pas que ça arrive du tout. Et j'espère que tout ce qui est mis en place comme ça, ça va pouvoir aider et semer des graines dans les petites têtes de ces... C'est des enfants aussi, hein, mais j'espère que tout ça, ça peut aider.
C'est ce qu'on avait déjà dit aussi ici, c'est qu'en plus on a des situations, et que quelque part tu l'exprimes aussi, mais où les gens qui ont été harcelés à un moment peuvent être eux-mêmes harceleurs dans certaines situations. Donc toi tu parles plus d'une violence qui va se retourner effectivement contre des gens qui vont être proches ou des choses comme ça. Donc, c'est pas une situation de harcèlement, on parle d'autre chose, mais il y a aussi ça, c'est-à-dire des gens qui peuvent être harceleurs, harcelés alternativement. C'est super compliqué, enfin c'est vraiment des cycles qui sont tellement malsain, et effectivement, comme tu dis, c'est des choses qui devraient juste pas se produire.
En fait, juste une petite remarque, moi je suis bouleversé par ce que je viens d'entendre, comme tous, et ça m'amène à une réflexion. C'est que, en fait, par rapport aux souffrances du monde qui nous entoure, la souffrance du monde qui nous entoure, des autres, nous oblige, nous, en tant qu'adultes, nous oblige, c'est notre responsabilité. Ce que je veux dire par là, c'est que, en t'écoutant, je me rends compte à quel point nous tous, en essayant d'être bienveillant, en essayant d'agir le mieux possible dans notre vie de tous les jours, finalement, les gens qui ont souffert, qui souffrent, comme toi, parce qu'il y a une résonance, on l'entend encore aujourd'hui, donc qui souffrent, je le dis au présent, finalement, c'est notre responsabilité à nous tous que de t'aider à voir que le monde, finalement, qui t'entoure, n'est pas celui que tu as connu et qui résonne encore en toi. Mais il peut être un monde de bienveillance. Tu as parlé de David, tu as dit grâce à toi David, tout ça. Et ça m'a fait, c'est là que j'ai pensé à ça. Je me dis finalement, nous les adultes, on a la responsabilité, chaque matin quand on se lève, d'agir le mieux possible parce qu'on ne se rend pas compte à quel point. Du coup, on envoie un message à des gens qu'on ne connaît pas ou dont on ignore peut-être la souffrance, mais qui ont besoin de reprendre pied dans le monde et de se dire le monde qui m'entoure, il peut être fait de gens, de chaleur, d'attitude positive. Et en t'écoutant, je me dis, finalement, chaque geste positif qu'on fait vers autrui peut ramener quelqu'un dans une idée du monde positive. Parce que je pense que C'est ça qui peut t'aider, toi, c'est de te rendre compte que ce que tu as vécu, bah, ce n'est pas normal au sens étymologique du mot anormal, quoi. C'est-à-dire que finalement, la norme, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être David, c'est peut-être nos déconnades ce soir à la radio, c'est ça. Et te réapprendre que le monde, bah, finalement, c'est plutôt ça la norme. Et que ce que tu as vécu, bah, voilà, c'est quelque chose de pas normal. Et si petit à petit, tu arrives à dissocier ça du monde, parce que je pense que la souffrance, on a peut-être tous en nous aussi des souffrances, etc., sûrement moins fortes que ce que tu as vécu, mais et on a l'impression finalement que le monde, c'est ça. Et on regarde le monde comme ça, avec méfiance, avec violence, parce qu'on se dit, mais c'est ça le monde. Et on a tous, je crois, la responsabilité finalement d'apprendre à l'autre qui nous entoure que le monde, ça peut être autre chose, ça peut être de la chaleur, ça peut être du soutien. Et en tout cas, j'espère que tu vas rencontrer beaucoup de personnes qui vont plutôt te dire que ce que tu as vécu, bah, c'était pas la norme, et que va t'aider à comprendre que la vie, bah, c'est autre chose. Parce que moi, ce qui me touche dans ce que tu racontes, c'est que finalement, tu as dit, j'ai bientôt 18 ans, etc. Mais quand tu parles, on a l'impression que c'était hier. Et je me rends compte à quel point on est tous le produit de notre enfance, et que finalement, l'enfant de 9 ans qu'on a été, en fait, il n'est pas si loin de ça en nous. On peut très vite il est à notre côté. Et en tout cas, bah, tu m'as bouleversé. J'espère, je te souhaite vraiment le meilleur. Et j'espère que tout ça, ça sera un lointain souvenir. Mais moi, ce qui me choque, c'est comme Victoria, parce que j'ai une fille qui a l'âge que tu avais à l'époque. Et je me dis, et j'en entends parler de ce mot harcèlement aussi. J'en ai entendu parler. Pas à propos de ma fille, mais je veux dire, c'est une thématique qui est abordée dans le milieu scolaire. Et je me dis à quel point c'est choquant. On parle quand même d'une école primaire, quoi. Ouais, c'est sidérant.
C'est
quand même.
Très tôt.
Sidérant. En tout cas, voilà.
Sur le soutien qui a pu être apporté, la maman d'Emery qui avait envie, alors on l'a enregistré tout à l'heure, voilà, avait envie aussi de dire quelques mots. Donc je vais proposer à Jean-Luc à la technique qui nous assiste toujours très bien, si c'est possible d'envoyer l'enregistrement.
Bonjour, moi en tant que maman d'Emery, je souhaite remercier l'équipe scolaire de l'école primaire, surtout la directrice qui nous a beaucoup soutenus et accepté les retards d'Emery. La police municipale de Maxéville et monsieur le maire qui a pris notre main courante en considération et qui sont intervenus à plusieurs reprises à l'école. Et surtout vous, monsieur Richard, vous avez toujours été à notre écoute. Quand je vous ai demandé de l'aide, car moi en tant que maman, je n'y arrivais plus toute seule, vous avez dit oui sans hésiter. Et encore aujourd'hui, vous êtes là pour Emeric. Donc un énorme merci à vous. Et enfin, je veux féliciter Emeric pour son évolution. Même si c'est très compliqué encore certains jours, il a énormément avancé et je suis très fière de lui.
Et voilà, les choses qui devaient être dites. Je vous remercie aussi d'ailleurs en passant. Et je suis extrêmement fier d'Emeric et c'est chouette que vous puissiez dire aussi que vous êtes fière de lui et du parcours qu'il a fait. Oui,
j'ai quelque chose à dire juste par rapport à ça. C'est un message, ça va sonner très bateau. Et du coup, je pense qu'il y a déjà plein de personnes qui te l'ont dit, mais pour avoir aussi vécu du harcèlement, on finit par s'en sortir, on finit par reconstruire quelque chose au-dessus. Ce sera peut-être pas ce qu'on avait prévu de base, et c'est peut-être pas comme ça qu'on s'imaginait devenir un adulte ou quoi que ce soit, mais c'est pas pour autant que cet adulte qui est en train de se créer avec la vie qu'il a vécue avant ne vaut pas le coup. Au contraire, tu vas juste être un adulte qui aura une vie dans laquelle il y aura eu plein de choses qui se sont passées, mais dans lesquelles tu pourras puiser quand t'as besoin. Et des fois, alors tu parlais de cette colère justement qui est quelque chose de négatif. Et alors certes, je suis d'accord sur plein d'aspects, c'est pas forcément quelque chose de positif, ni à ressentir, ni à exprimer autour de soi. Mais mine de rien, tu te rendras compte avec le temps que dans la vie, des fois, puiser un peu dans cette colère et dans cette sorte d'énergie justement qui est vraiment bouillonnante, c'est nécessaire. Et surtout, ça peut, de belles choses peuvent en arriver. C'est pas parce qu'on part de quelque chose de négatif qu'on peut pas le transformer en quelque chose de positif.
La colère, t'auras tout le temps d'y arriver. La colère, elle est là aussi pour passer à autre chose, pour que tu évacues tous ces sentiments négatifs que tu as. Et elle est là pour que tu passes à autre chose. Elle doit être évacuée, mais peut-être par le sport, par d'autres choses aussi, peut-être. Mais en tout cas, je tiens à te féliciter pour ton témoignage, parce que je pense que, tu n'es pas le seul. Et d'avoir le courage de parler comme ça, c'est vraiment formidable. Et je pense que tu aides les autres qui sont harcelés. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va t'écouter et qui va dire « Mais moi aussi, je le subis. » Et ça va lui donner le courage d'aller le dire. Parce qu'il y en a certainement qui n'osent pas le dire, qui se taisent. Et j'espère aussi que les personnes qui font du mal t'entendent pour comprendre les conséquences que ça a sur toi sur, comme le disait David, sur le temps et sur l'entourage. Parce qu'en fait, c'est comme un caillou dans l'eau, ça a des répercussions énormes. C'est pas que le caillou dans l'eau, c'est toutes les ondes qui sont autour. Et franchement, félicitations.
Merci.
Et courage.
Ouais, franchement, on t'entendra le mois prochain, justement, pour parler de comment ça va mieux maintenant. Et puis, justement, toute cette dynamique pour l'école de la deuxième chance, on recevra le directeur du site de Nancy. Si je dis peut-être une bêtise, il le dira mieux que moi. Et bravo. Je suis extrêmement fier. Je le redis. Mais je pense que je suis pas le seul. Je vois que ta maman, elle est. Voilà.
Et nos pensées les meilleures, et tu les éclaires, la famille aussi, et à vous, madame, parce que Dieu sait que les souffrances ou les blessures de nos enfants nous font veiller tard, nous font des nuits blanches. Et en tout cas, nos pensées les meilleures. Vraiment, merci d'être venu aujourd'hui pour en parler.
Merci. Et puis, se lire un petit bouquin, ça permet de changer les idées. Et là.
Ou d'écouter Christophe Maé.
Le bouquin, c'est bien.
Mais on a dit qu'il fallait aller mieux, Claire.
En plus, Christophe Maé, c'est mon passé. Quand j'étais petit, je le considérais comme mon père.
Ah ben tu vois, voilà. Eh ben écoute-le. Écoute-le.
Non, pour toi, je suis d'accord pour Christophe Maé. On te le passera la prochaine fois. À bientôt, chers auditeurs. Merci à vous tous. Merci pour cette belle émission.